E-Radio présente Grand Continent. Grand Continent, une émission pour enrichir les questions techniques du politique contemporain avec une exigence intellectuelle adaptée aux singularités de l'environnement européen. Grand Continent, Ulrich Heugeveld.
Eh bien bonjour et bienvenue dans l'émission Grand Continent avec en lien avec le média du même nom. Alors il y a deux mois, l'Allemagne élisait son nouveau parlement, la coalition composée du parti SPD, les social-démocrates, arrivée en tête des élections, du parti libéral-démocrate et du parti vert. Ils viennent de publier leur accord de 177 pages, un contrat qui présente les grandes lignes directrices de la politique du futur gouvernement pour ces quatre prochaines années. La revue Grand Continent a publié la première traduction en français de ce contrat de coalition. L'article « Doctrine de la nouvelle ère allemande » présente notamment les éléments qu'il nous faut lire pour bien comprendre ce qui nous attend ces quatre prochaines années. Alors cet article a notamment été réalisé par Pierre Ménéra. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup à vous.
Alors, Monsieur Ménéra, vous avez étudié l'histoire contemporaine et la littérature germanophone à Paris, à l'ENS et à la Sorbonne, et vous collaborez régulièrement avec la revue du Grand Continent. Alors, revenons un petit peu sur les résultats qui ont précédé, évidemment, ce contrat de coalition. C'était quoi les enseignements, en bref, de ces élections, qu'ont notamment vu les sociaux-démocrates faire un retour en force dans le paysage politique allemand, hein?
Absolument. C'est vrai qu'après des années en fait de déclin qu'on présentait comme irréversible et quasi ininterrompu, le résultat des sociaux-démocrates portés par Olaf Scholz, donc leur candidat à la chancellerie, a été assez surprenant. Il est dû, premièrement, à une contre-performance des chrétiens-démocrates qui étaient au pouvoir depuis 16 ans. Et il faut quand même préciser que les sociaux-démocrates ont 25,7% des voix et les chrétiens-démocrates 24,1%. Donc on n'a pas non plus un immense gouffre qui s'est créé entre les deux non plus. Mais ils ont quand même inversé une tendance. Et ça, c'est important à le noter. Et effectivement, ils se retrouvent maintenant en position de constituer un gouvernement à trois, avec donc les Verts, qui, pour le rappeler, sont arrivés à 14,8% des suffrages, et le FDP, donc le Parti libéral-démocrate, qui est arrivé à 11,5% des suffrages. Donc ces trois partis ont tous les trois en commun d'avoir connu une croissance de leurs résultats pour l'élection du 26 septembre dernier.
Alors, est-ce que cette coalition, elle est inédite dans l'histoire de l'Allemagne, donc le SPD, le FDP, les libéraux et les Verts?
Alors, c'est une coalition inédite au niveau fédéral, mais elle existe déjà dans le Land de Rhénanie-Palatinat, donc Rheinland-Pfalz en allemand, depuis quelques années, sous la direction aussi du SPD, de la ministre-présidente qui s'appelle là-bas Malou Dreyer. Et il faut dire en fait que le SPD a déjà coalisé, entre guillemets, avec ses deux partenaires séparément. Et nous y reviendrons, je pense, dans le cours de l'entretien, à l'époque de Willy Brandt, qui est une figure assez importante, évidemment aussi au sein du texte de l'accord, il y a beaucoup de références à Willy Brandt, donc à partir de 1969, puis sous Gerhard Schröder, donc à partir de 1998, donc respectivement d'abord avec le FDP, pendant ce qu'on appelait l'ère sociale libérale, puis ensuite, de 98 à 2002, avec les Verts, donc dans ce gouvernement, cette coalition qu'on a appelée rouge-verte.
Alors, Monsieur Ménéra, est-ce que ces négociations, elles ont été assez simples par rapport à ce que vous pouviez imaginer? Est-ce qu'elles se sont déroulées sans trop de crispation? On n'a pas vu beaucoup de fuites dans la presse ces semaines de négociations qui viennent de précéder la signature de ce contrat de coalition.
C'est vrai qu'il y a eu très peu de fuites et c'était une grande surprise aussi pour beaucoup d'observateurs, puisque on peut se souvenir en 2017 qu'il y avait une tentative à l'époque sous l'égide d'Angela Merkel de constituer une coalition à trois aussi. Et en fait, cette coalition à trois avait échoué au bout de quelques semaines de négociations préliminaires par la sortie en fait assez fracassante des libéraux, de Christian Lindner, donc une figure assez importante de ce gouvernement-ci qui vient d'être constitué, qui avait déclaré à l'époque qu'il vaut mieux ne pas gouverner que mal gouverner. Et la phrase avait donc causé un peu d'éclat dans le paysage politique allemand habitué à des coalitions assez stables. Et aujourd'hui, en fait, on peut vraiment parler d'une bonne surprise, car en fait, les trois coalitionnaires, trois partis donc, qui ont négocié pendant deux mois, l'ont négocié de manière ininterrompue et de manière très discrète, effectivement, avec très peu de fuites dans la presse.
Alors on va revenir hein, sur ce qu'il y a effectivement dans ce contrat. Avant tout, si on le prend de façon globale, si on le regarde comme un tout, est-ce qu'il y a plus de ruptures ou des continuités par rapport au gouvernement sortant d'Angela Merkel, dont je rappelle, hein, le futur chancelier faisait partie.
Bien sûr, le futur chancelier Olaf Scholz était vice-chancelier jusqu'ici et ministre des Finances. Donc tout sauf un poste secondaire, c'était vraiment un homme fort du gouvernement et il a participé à des grands projets. Certains sont évoqués d'ailleurs dans l'accord lui-même, notamment la taxation minimale des entreprises qui a été négociée au sein du G20 et au sein des instances internationales. Donc effectivement, il y a énormément, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a énormément de continuité. Il faut aussi peut-être dire que après des années de gouvernance par la CDU, le gouvernement qui va bientôt entrer en fonction a peut-être envie aussi de faire beaucoup plus de planification que de gestion de crise. Bien sûr, il faudra voir la façon dont la réalité des affaires au jour le jour va permettre de réaliser ce souhait, mais il y a une vraie volonté, le mot plan par exemple, le mot Planung, donc planification en allemand, apparaît de manière très récurrente dans l'accord de coalition dans tous les domaines. Il y a une vraie volonté de se projeter, et en fait l'accord est donc négocié pour les 4 années à venir, mais la plupart des dates et des échéances annoncées montrent très bien que c'est au-delà de 2025.
Alors, monsieur Ménéra, quels ont été, d'après vous, les grands marchandages? Parce qu'il y a des partis qu'on mettrait pas naturellement ensemble, hein, dans cette coalition. Je pense, bien sûr, au FDP et au Parti Vert. Sur quoi se sont-ils battus? Même si, comme vous nous l'avez dit, évidemment, il y a eu peu de fuites dans la presse.
Alors, il y a eu quand même une petite fuite dans la presse et je pense que c'est assez révélateur, justement, sur les grandes négociations et peut-être divisions qui ont quand même pu avoir lieu. C'est notamment vers le milieu du mois d'octobre, donc on était un peu au milieu du guet des négociations entre les deux parties, enfin les trois parties, pardon. Les Verts ont commencé à faire savoir dans la presse de manière assez insistante que la question climatique n'était pas assez traitée à leurs yeux dans les cercles de négociation, puisqu'en fait, après avoir établi la possibilité de négocier, se sont constitués des petits groupes. Parce que l'accord, donc, comme vous l'avez évoqué, fait 177 pages, c'est un travail de plusieurs centaines de personnes. Et donc, les Verts ont fait savoir que la question climatique, la question écologique, la question de l'énergie, n'était pas suffisamment considérée par les autres partis comme une grande cause nationale, mais plutôt comme une sorte de jeton de négociation, pourrait-on dire, en disant par exemple, ce que les Verts reprochaient à leurs partenaires, c'était de dire par exemple, bon maintenant on a suffisamment parlé d'écologie, voilà, ils leur reprochaient peut-être un manque de sincérité dans la prise en compte du danger écologique.
Et alors, monsieur Ménérat, justement, dans cet accord de coalition, en parlant du climat, de l'écologie, c'est quoi les principaux projets, les principaux jalons que nous propose ce gouvernement pour les 4 ans qui viennent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont là aussi surprise?
Alors, c'est très intéressant de voir, en fait, la formulation des échéances et des jalons qui sont posés par le texte. Il y a notamment un passage qui a été plusieurs fois remarqué, c'est la formule « Nous voulons sortir du charbon idéalement en 2030 ». Donc, cet « idéalement » a pas mal fait, peut-être un petit peu jaser certains commentateurs. Et il est vrai que c'est justement un petit peu, je pense, révélateur de un peu la nature de ce texte qui est donc été un peu arraché de haute lutte entre chaque partie, en fait, par les négociateurs. Donc, on va mettre une date très ambitieuse, en tout cas assez proche, donc 2030 c'est la fin de la décennie, pour un événement majeur dans l'économie allemande, la sortie du charbon. Et en même temps, on va essayer de le modérer avec des adverbes, comme idéalement dans ce cas-là, qui semblent effectivement indiquer que le futur gouvernement sera peut-être encore traversé par des tendances effectivement assez contraires. Un autre exemple important de la politique écologique qui a été évoqué dans le pré-papier de coalition que nous avions déjà publié avec le Grand Continent dans sa version intégrale, il faisait seulement 10 pages, c'était la volonté de couvrir un pourcentage assez élevé, je crois que c'était 2% du territoire national avec des éoliennes. C'était quelque chose de très particulièrement ambitieux. Et il y avait aussi, sur la politique écologique, la volonté, mais ça s'inscrit plutôt dans une perspective européenne, d'anticiper les directives européennes sur la sortie des moteurs à combustion. Ce qui, évidemment, pour l'Allemagne, est une question particulièrement centrale, puisque vu la place de l'industrie automobile dans le pays.
Alors, monsieur Ménéra, vous nous parlez de directives européennes. Alors, ça nous amène à parler de l'Europe, qui est quand même assez présente hein, dans cet accord de coalition. On y retrouve même des termes qui sont pas forcément fréquents dans le vocabulaire politique allemand. On y retrouve la question de l'autonomie stratégique. On voit que c'est une expression qui est chère, notamment à Emmanuel Macron. Il y a des grandes ambitions pour l'Europe dans cet accord de coalition.
Absolument. C'est un accord qui est quand même marqué par trois partis qui sont sans réserve pro-européens. Alors évidemment, chacun avec leur thème préféré, on va dire. Mais effectivement, l'expression souveraineté stratégique est utilisée. Et effectivement, elle est utilisée peut-être dans un contexte qui, s'il peut plaire au président Macron et au tenant effectivement de sa position européenne, constitue aussi peut-être une forme de caveat, puisque il est fait allusion juste après avoir évoqué la souveraineté stratégique à beaucoup d'aspects, sauf les aspects de défense. Ou en tout cas, les aspects de défense sont considérés de manière très secondaire. Et donc, la souveraineté stratégique, c'est un terme qui effectivement, je pense, s'est imposé dans le débat et même le débat intérieur allemand. Et, semble maintenant faire l'objet d'un consensus suffisamment large pour se retrouver dans un accord de coalition. Mais la définition qui en est donnée dans l'accord est assez étendue. On va parler par exemple des infrastructures numériques, des infrastructures de santé, de l'approvisionnement énergétique. Donc il y a beaucoup de dossiers sur lesquels je pense le gouvernement en feu tricolore, comme on dit, est prêt à avancer, mais aussi beaucoup de dossiers sur lesquels il est aussi fait preuve d'une certaine forme de prudence qui s'inscrit effectivement là dans une continuité avec le gouvernement précédent.
Et alors, dans cet accord de coalition, le futur gouvernement allemand se dit ouvert à la possibilité de faire des accords avec certains pays européens seulement pour dépasser les éventuels freins de part et d'autre. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein.
Absolument. C'est une question qui est évoquée notamment dans les domaines de défense, mais aussi dans les domaines des investissements. Il y a des passages. Enfin, il me semble que il y a quand même une volonté très très claire de continuer à renforcer le multilatéralisme. Ça m'étonnerait qu'on trouve un gouvernement allemand qui se redirige uniquement vers le bilatéral. Et je pense que le cadre européen va garder et va prendre une place encore plus importante dans la définition en fait des objectifs allemands. Il y a une phrase qui est intéressante, qui revient plusieurs fois dans l'accord. C'est la phrase en fait déterminer les intérêts allemands à la lumière, enfin au regard, on pourrait traduire aussi des intérêts européens. Alors cette phrase qui je pense, indique assez clairement la méthode qui va être suivie par ce gouvernement, enfin en tout cas on peut l'espérer. Évidemment, après je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, la question de la répartition entre les partis des postes de ministres va peut-être amener à justement nuancer toutes les bonnes intentions et les déclarations de volontarisme qui peuvent être faites.
Alors le volontarisme, il est aussi toujours sur cette question du futur de l'Europe, sur l'Union européenne, de maintenir, de valoriser, de soutenir l'état de droit partout, notamment là où il est menacé, je pense bien sûr à la Pologne, hein, voisin de l'Allemagne, ou encore la Hongrie. Hein.
Absolument. C'est vrai que cet accord peut laisser entendre, en tout cas, et c'est assez clair, je pense, dans la façon dont c'est formulé, une attitude plus ferme peut-être. L'attitude allemande était déjà ferme sous le mandat de Madame Merkel, mais une attitude encore plus ferme vis-à-vis des questions effectivement de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, du respect de la personne humaine, etc. C'est un texte qui marque aussi par rapport à d'autres pays, nous y reviendrons peut-être, notamment la Chine et ce qu'on va appeler dans le texte des rivaux systémiques. Voilà, une vraie politique de fermeté. En tout cas, c'est celle qui est mise en avant dans ce texte.
Et alors, on parle aussi d'Europe sociale. Qu'est-ce que concrètement l'Allemagne veut faire avancer sur ce terrain dont on parle beaucoup, mais finalement où beaucoup de citoyens se plaignent de voir les dossiers avancer assez peu?
Il me semble que l'accord, en fait, se place essentiellement ici dans la continuité d'un côté des choses qui ont été avancées pendant le mandat précédent, notamment sur la question, effectivement, des travailleurs détachés, donc des questions d'emploi au niveau européen, donc de la justice, je dirais, du travail, de la justice économique au travail, et également sur le volet peut-être socio-sanitaire, où il y a ici une volonté, bien que ça ne relève pas directement d'une compétence de l'Union européenne, de doter en tout cas l'UE, et cela ressort aussi dans d'autres parties du texte que nous n'avons pas forcément traduites, notamment la partie sanitaire, une vraie volonté de développer des outils de réponse rapide aux crises, etc., et donc en fait de permettre aussi une forme, oui, de mutualisation des réponses sanitaires et des réponses d'urgence. Sur la question sociale, effectivement, après, le texte n'est peut-être pas, loquace, entre guillemets. C'est peut-être encore un domaine réservé, peut-être un petit peu, de la politique intérieure.
Alors, Monsieur Ménéra, vous avez fait référence, évidemment, au contexte sanitaire, hein, dans lequel ce gouvernement va rentrer en fonction. Est-ce que sur la gestion de la pandémie, ce futur gouvernement, il s'inscrit aussi dans les traces du gouvernement d'Angela Merkel, ou alors il y a quelques évolutions, quelques changements de quelques petits basculements dans la direction qui risque d'être prise?
C'est très intéressant d'observer effectivement dans les jours qui sont passés, même depuis la publication de l'accord, c'est un peu concomitant d'ailleurs à la publication de l'accord. La nouvelle majorité, qui n'a pas encore de gouvernement propre, mais qui existe, qui est entrée en fonction, hein, donc les députés sont en fonction depuis maintenant quelques semaines, ont voté une nouvelle loi de protection contre le virus, Infektionsschutzgesetz, et cette loi permet notamment une gestion plus territorialisée de l'épidémie, et elle est déjà, en fait, elle a été l'objet d'un débat assez acerbe par moment, avec notamment les représentants du gouvernement sortant, en particulier surtout de la CDU, de CSU, bien sûr, qui a accusé en fait un gouvernement qui n'existait pas encore d'être déjà dans une mauvaise gestion. Enfin, c'était les arguments qui étaient avancés montraient quand même que la question de la gestion de la pandémie est de plus en plus politisée en Allemagne, malgré en fait le fait que voilà, les coalitions sont quand même assez larges et qu'il y a quand même un large consensus sur la plupart des mesures. Et Monsieur Scholz a annoncé récemment ça qu'il était personnellement en faveur d'une obligation vaccinale. Donc je pense qu'on peut quand même s'attendre à pas mal de nouveautés, notamment dans la question de la politique sanitaire, dans les semaines et dans les mois à venir.
Et alors, Monsieur Ménéra, il y a aussi une dimension de la politique allemande où c'est particulièrement intéressant de voir un petit peu où se situe cet accord de coalition. C'est sur la question migratoire, on le sait, hein, on s'en souvient. Angela Merkel avait pris des décisions à rebours de celles qui avaient été prises par ses voisins, par les autres pays européens, au moment de la grande vague migratoire, notamment en 2015. Comment se situe ce nouveau gouvernement sur cette question?
Alors c'est très intéressant puisque effectivement c'est un gouvernement qui est constitué de partis plutôt de centre-gauche, on pourrait dire ainsi, et qui pourtant dans la partie consacrée aux migrations va quand même largement s'inscrire dans un premier temps dans la continuité d'Angela Merkel, et en fait qui prône donc quand même donc un humanisme et en même temps une sorte de fermeté et de rigueur en fait dans l'accueil des migrants. On peut penser notamment à les questions très récentes des questions de la fuite des agents locaux d'Afghanistan qui sont évoquées dans l'accord. Ces agents-là, évidemment, il y a un consensus très large dans la société allemande pour qu'ils soient accueillis. Et d'un autre côté, il y a donc à la fois un aspect de la migration pour l'asile et la migration économique. Les deux dossiers sont traités de manière côte à côte. L'accord fait allusion de manière, et c'est dès son introduction, à la structure démographique de l'Allemagne, notamment au fait que la société vieillit et devient de toute façon plus diverse. Donc il y a une forme quand même de reconnaissance que c'est la réalité sociale actuelle en Allemagne, et donc que il va, pour que l'industrie et l'économie allemande en général continuent à marcher bien, il va falloir faire appel à des travailleurs qualifiés étrangers. Donc ça, c'est un objectif qui est clairement assumé et qui, je pense, est côte à côte avec la question effectivement du droit d'asile, sur laquelle on remarque, enfin en tout cas, on a de très nombreuses déclarations d'intention pour une politique effectivement plus solidaire au sein de l'Europe, notamment pour un cadre un peu plus établi pour aider les pays dans lesquels les premiers pays d'accueil dans lesquels les migrants arrivent en premier. Donc ça peut aussi peut-être, je pense, il y a quand même une intention très claire d'aller vers plus de solidarité au sein de l'Europe, voilà, plus d'humanité en général aussi.
Merci Monsieur Ménéra. Alors une dernière question, hein, comme on arrive au terme de cette émission, ça va pas être trop compliqué, en tout cas ils s'inquiètent pas un petit peu les nouvelles figures de ce futur gouvernement, d'avoir à succéder à Angela Merkel, hein, qui termine quand même avec des scores de popularité assez inédits après 16 ans à la tête de l'Allemagne.
Je pense qu'effectivement, là, ça va être très étrange aussi, même pour une partie de la jeunesse allemande qui n'a jamais connu quelqu'un d'autre qu'Angela Merkel. Après, il faut dire que Angela Merkel, et c'est une de ses grandes qualités, a aussi très bien su gérer cette transition. Elle a invité notamment à plusieurs reprises Olaf Scholz, donc qui était déjà bien au courant des affaires du gouvernement, à des meetings internationaux pour qu'il y assiste avec elle dans les dernières semaines de son mandat. Il a été à plusieurs reprises à ses côtés. Dans plusieurs instances. Et la personne, en fait, l'essentiel, je pense, de l'importance de Merkel tenait aussi à sa personnalité, à son calme et à sa façon de réagir à des crises d'une manière assez équanime, on pourrait dire, en quelque sorte. Et c'est vrai que je pense que Olaf Scholz a conscience, et je ne doute pas qu'il saura aussi un petit peu émuler Merkel, tout en étant pas non plus un clone de Merkel, mais il saura aussi, je pense, revêtir un petit peu ce manteau du chancelier arbitre qu'elle a pu être, et d'autant plus que maintenant, il devra être arbitre entre non seulement deux parties, mais trois parties, ce qui va constituer évidemment un défi supplémentaire pour M. Scholz.
Voilà, et ben on suivra ça avec avec attention, bien sûr, ici de ce côté du Rhin. En tout cas, je recommande à nos lecteurs de lire, hein, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur cet accord de coalition qui va guider le travail du gouvernement allemand normalement pendant ces 4 prochaines années. L'article que vous avez, Pierre Ménéra, dédié à cette thématique, un doctrine de la nouvelle ère allemande, sur le site du Grand Continent, legrandcontinent.eu. Merci encore d'être intervenu sur nos ondes et à très bientôt, j'espère.
Merci beaucoup.
C'était Grand Continent, une émission pour enrichir les questions techniques du politique contemporain avec une exigence intellectuelle adaptée aux singularités de l'environnement européen. Grand Continent, à retrouver sur vos réseaux sociaux et sur euradio.fr.